Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Très heureuse de vous retrouver dans votre émission Feel Good, bien fait pour vous. Nous sommes à vos côtés jusqu'à midi. Et Mélanie, on va s'intéresser à quel sujet ce matin?
Alors je suis sûre que ça vous est déjà arrivé un jour de vouloir obtenir quelque chose de quelqu'un. Par exemple, que votre voisin garde votre chien, que votre enfant fasse la vaisselle ou que votre mari arrête de fumer. Il y a des tas de situations comme ça. Mais nous, ce matin, on va se concentrer sur un point précis. On va vous apprendre à parvenir à vos fins. Comment manipuler les autres gentiment, bien sûr. Comment être plus doué pour la persuasion. Et pour nous guider dans cette voie un peu machiavélique, mais uniquement pour les honnêtes gens, je vous le promets, on sera accompagné par des experts. Robert Vincent Joule, professeur de psychologie sociale, ainsi que le mentaliste Victor Vincent.
Et ensuite, à 11h45, ce sera la partie dédiée à nos bienfaiteurs. Il y aura tout d'abord, comme tous les mercredis, la chronique Lecture Jeunesse de Nathalie Le Breton. Aujourd'hui, elle va nous parler de bouquins qui peuvent aider les plus petits à combattre la peur du noir et à éloigner les vilains cauchemars. C'est toujours utile ça. Et puis, une fois qu'on aura calmé les enfants, eh bien on va leur proposer de partir avec nous en Thaïlande. Ce sera l'objet de la chronique Voyage de Gavins Clémenté Ruiz. Petite virée au pays du sourire, en famille donc, à la fin de l'émission. On vous accompagne jusqu'à midi, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez devenir des manipulateurs? C'est la question que l'on vous pose ce matin, avant de vous révéler nos astuces pour toujours parvenir à vos fins. On va écouter celle peut-être de Clément Lanoux. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde. Alors j'aime pas trop le mot manipulation, ça fait peur. Je préfère parler de pouvoir de persuasion, c'est plus positif, c'est vrai. Qui n'a jamais rêvé de faire un plaidoyer incroyable avec le public pendu à ses lèvres, en buvant les paroles comme ça, en entraînant dans votre tourbillon imaginaire? Je crois que j'ai pas ce pouvoir, je ne crois pas. Enfin, j'ai jamais essayé. Tiens, si j'essayais maintenant. Ah, Mélanie, vas-y. Julia, chers invités, toute la rédac d'Europe 1, que diriez-vous si on se levait là maintenant et qu'aujourd'hui on faisait pas l'émission, on met de la musique? On remet un best-of d'hier, on part tous au Touquet, on va manger des fruits de mer.
Bah ça va
là,
pas bien.
Moi, je suis pas d'accord du tout.
Je pensais que j'aurais pu avoir Julia, mais pas du tout. Bon.
Non.
Ok, en ce qui me concerne, donc zéro pouvoir de persuasion. Apparemment, je suis un très mauvais manipulateur. Je compte sur nos invités pour arriver à mes fins d'ici tout à l'heure. J'ai réservé pour 5 en plus. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Moi, j'ai bossé la manipulation en entreprise. Là, vraiment, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Et j'ai quelques tips avant de commencer l'émission pour ceux, et je sais qu'ils sont nombreux en France, qui voudraient une augmentation. Quelques petits conseils pour y arriver. Alors, c'est mes conseils. Hein. Ça vaut ce que ça vaut. Numéro 1, c'est la menace. Vous arrivez dans le bureau du patron avec une arme à feu, ça fonctionne à 99% des cas. Quelques soucis après, tribunal, prison, douche collective, bref. Est-ce que ça valait pas ces petits 50 balles d'augmentation? Deuxième plus courante, c'est le chantage. Très classique. Vous arrivez avec une petite valise, une petite sacoche dans le bureau du patron. Vous dites, voilà, j'ai ici des photos compromettantes de vous et quelqu'un d'autre. Surprise, on ne sait pas qui. Est-ce que vous voulez que je détruise la valise? Ou est-ce que moyennant 300 euros par mois, ça peut fonctionner? Je vous laisse essayer, j'attends vos retours. Le plus efficace, tiens, la pitié. La pitié, vous rentrez dans le bureau. Vous regardez le patron dans les yeux, vous lui dites « Excusez-moi de vous demander ça, cette orange-là, vous la mangez pas ?» Non, parce qu'avec un joli papier cadeau, ça peut aider les enfants pour Noël. Voilà. Après, une petite augmentation aussi, mais chacun fait ce qu'il veut. Oui, petite technique aussi à avoir, il faut toujours demander plus pour avoir moins. Si vous voulez, par exemple, juste obtenir la gratuité du café dans l'entreprise, vous demandez un appartement de fonction. Voilà, comme ça, vous redescendez et vous aurez... Autre règle efficace, toujours faire croire que l'idée vient de lui. Ça, c'est génial. Vous rentrez dans le bureau en disant, vous vous rappelez, il y a un an, quand vous vouliez m'augmenter, que je vous ai dit non, c'est pas le moment, il faut attendre le bon moment. Vous aviez eu raison. Ça aurait été une erreur de le faire l'année dernière. Là, j'ai l'impression que c'est le bon moment. Vous avez eu raison. Sinon, vous pouvez toujours inventer des chiffres. Vous vous promenez avec un journal et vous lisez à voix haute. Oh, c'est quoi ce chiffre? C'est fou. C'est 90% des patrons qui augmentent leurs salariés. Ont une plus-value de plus 320% dans les 6 mois.
Wow,
c'est dingue.
Ouais, c'est
hop, et vous partez discrètement. Et puis enfin, la meilleure des techniques, meilleure des conseils, moi c'est ce que je fais régulièrement, c'est de faire croire que vous êtes hyper désiré ailleurs.
Ah oui, pas
voilà,
mal.
Vous posez le téléphone devant un collègue, devant le patron comme ça, et ça peut surprendre.
Regardez ce que je vois. Emmanuel Macron en photo.
Est-ce que je vais décrocher, c'est quoi? Bureau du président à l'Élysée. Vous décrochez, voilà. Ouais. Et vous, excusez-moi, je suis en direct. Oui, monsieur Macron. Oui. Un remaniement ministériel maintenant. Chaque fois, il est obligé de me demander votre avis. Mettez qui? Je ne sais pas. Mélanie Gomez à la santé, ce serait super. Julia Vignali, c'est la reine de l'intérieur. Elle le dit toujours, on va la mettre à l'intérieur. Okay. Vous êtes d'accord, les filles, ou pas?
Pas de problème.
Il faut aller au Touquet dans 5 minutes.
On est
réservé pour 5. On y va.
Bon.
Voilà.
On est dispo.
J'ai réussi à vous manipuler, finalement.
Merci beaucoup, Clément Lanoux. Je suis sûre qu'il y avait 2-3 tips. D'ailleurs, nos invités ont beaucoup souri en vous écoutant. Donc, il y a peut-être des choses dont on va s'inspirer. On va passer justement avec nos experts à l'art de la manipulation. Bonjour, Robert Vincent Joule.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur de psychologie sociale et co-auteur du petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens aux éditions de Presse universitaire de Grenoble.
ça, Pug. Avec nous également, il y a Victor Vincent, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes mentaliste et vous êtes l'auteur du livre « Les clés de la manipulation » aux éditions Larousse. Je vais commencer par vous, Robert Vincent. Oui. Tout d'abord, on va parler de la manipulation aujourd'hui, mais dans l'imaginaire collectif, Clément l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est assez mal vu de parler de manipulation. Pourquoi ? Comment on peut l'expliquer ? Pourquoi il a tout de suite dit « non, je vais parler plutôt de l'art de la persuasion » ?
Mais parce que nous sommes des hypocrites. Tout simplement, qui n'a jamais essayé, en s'appuyant sur des moyens plus ou moins détournés, de parvenir à ses fins ? Je vous le pose la question. Personne.
Moi, je suis un grand manipulateur, mais justement, c'est mal vu d'être manipulé. Se sentir manipulé, c'est jamais positif.
Vous savez, les chercheurs de l'école de Palo Alto, et notamment Václavic en tête, disaient « on ne peut pas ne pas manipuler ». Nous sommes des êtres sociaux. La manipulation est au cœur de la vie sociale et dès que deux personnes sont en contact, elles commencent à s'influencer. Mmh. Alors autant le savoir. Et je pense même, pour faire peut-être un peu de provocation, après tout, c'est un peu l'esprit de l'émission, bien fait pour vous, que la manipulation, pour moi, entretient l'amitié. Je prends un exemple. Si, à l'aide d'une technique de manipulation que nous écrivons dans notre ouvrage, on en décrit une douzaine, vous parvenez à obtenir d'un ami qu'il vous aide, par exemple, durant tout un week-end, c'est extrêmement coûteux, à déménager. Mm-hmm. Il ne l'aurait pas fait spontanément.
Non.
Il reste ce qu'il le fait. Mais une fois qu'il l'a fait, ça fait plaisir de rendre service à un ami. Mais vous lui en êtes redevable. Et donc, à la première occasion, c'est vous qui allez lui rendre un service, et cette fois, sans qu'il y ait à vous le demander. Et en tout cas, sans qu'il y ait à vous manipuler. Vous voyez, la manipulation entretient l'amitié.
C'est pas mal, ça. Mais moi, j'ai jamais envie de faire des déménagements, quoi qu'il en soit. Victor Vincent.
Oui, mais si vous le faites, vous en seriez très heureuse.
Ouais, je vais essayer. Victor Vincent, vous êtes mentaliste. Est-ce qu'on peut dire que le mentalisme repose justement sur les techniques de manipulation qu'on vient d'évoquer ?
Non, bien sûr, heureusement. D'ailleurs, le mot manipulation, effectivement, c'est un mot qui est un peu négatif. Moi, j'utilise certaines techniques pour créer du spectacle. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas un expert dans la manipulation, je ne suis pas un expert dans le langage corporel.
Non, mais vous arrivez à persuader quand même les gens de faire quelque chose.
Oui, en fait, comme le disait Vincent, je peux vous appeler par votre prénom ?
Robert Vincent. Oui.
Comme il le disait, c'est que dans nos rapports tous les jours, on est manipulé, on est manipulateur et c'est sain, en fait. Tout ça est logique. Il y a une friction qui est tout le temps là. Et puis après, quand on commence à communiquer, comme vous parliez tout à l'heure d'une sorte de tirade, oui, comme ça, pour embarquer un peu tout le monde, voilà, c'est de la mise en scène. Et la mise en scène, c'est une forme de manipulation aussi. Donc forcément, j'y suis sensible, comme tous ceux qui se produisent sur scène.
Robert Vincent Joule, vous avez coécrit la première édition de ce livre avec le regretté Jean-Léon Beauvais, il y a maintenant 35 ans. La manipulation, c'est encore un sujet actuel en 2022.
Oui. Jean-Léon Beauvois.
Ah oui, pardon, Beauvois, j'avais
dit
Beauvais,
c'est vrai que je m'intéresse au ressort de la manipulation depuis en gros 35 ans. Mais vous savez, la manipulation est un sujet intemporel. Hein. C'était un vrai sujet il y a 35 ans, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et ce sera un vrai sujet demain. Et pourquoi ? Parce que derrière ce terme de manipulation, il y a toute une série de questions qui nous concernent toutes et tous, de portée très générale, toutes et tous dans notre vie sociale, amicale, familiale, professionnelle. Ces questions sont à peu près les suivantes. Vous les aviez posées en début d'entretien. Comment amener autrui à faire librement ce que je souhaite le voir faire, librement, spontanément, de lui-même ? De façon plus diplomatique, comment aider les gens à améliorer leur comportement ? Et de façon plus générale...
C'est votre point de vue, ça ?
Mais non, je donnerai, si vous le souhaitez, des exemples.
Bien sûr,
et de façon plus générale... Comment amener autrui à faire ce qu'il doit faire ?
Mais selon ce que vous avez envie qu'il fasse !
Oui, mais c'est le prix de la vie sociale. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans une société. C'est même la raison pour laquelle les hommes ont inventé les lois, les règles, les procédures. Bien entendu, il faut par exemple respecter le code de la route. Sinon, au premier carrefour, vous avez un accident.
Donc il faut respecter les lois qu'on a envie de
absolument. Donc
de donner
comment
aux
amener
autres.
Les gens à faire ce qu'ils doivent faire.
Merci. Allez, vous ne bougez pas. On va continuer à détailler les trucs qui permettent d'obtenir ce que vous voulez de n'importe qui. Bon, on reste dans des choses honnêtes, évidemment, ce matin. Oui. Mais en tout cas, c'est toujours utile d'être plus doué pour convaincre les autres. Et on vous apprend comment vous y prendre sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Aie confiance, crois en moi. je suis là.
On fait comme Car ce matin dans le livre de la jungle, Julia Vignali, n'est-ce pas ? Nous sommes avec vous tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. On vous apprend donc les ressorts de la manipulation aujourd'hui, comment devenir plus doué pour la persuasion. On fait le point avec Robert-Vincent Joule, co-auteur du petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes, ainsi que Victor Vincent, mentaliste et auteur du livre Les clés de la manipulation. Robert-Vincent, vous êtes professeur de psychologie sociale. Alors, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe finalement dans la tête de quelqu'un qui se fait manipuler ? Qu'est-ce qui entre en jeu ?
Oui, alors ça dépend des techniques de manipulation qu'on utilise. Alors, c'est pas, ne rentre pas en jeu la même chose si on utilise par exemple une porte au nez, un pied dans la porte, une crainte puis soulagement, un étiquetage, un toucher, c'est des choses totalement différentes.
Tout ça, c'est des techniques qu'on va détailler dans un instant, évidemment.
Donc, je ne peux pas vous dire comme ça pour une technique en particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que les chercheurs étudient précisément les processus psychologiques par lesquels les gens en arrivent à faire ce qu'ils n'auraient pas fait spontanément. Et il y a des tas de théories comme ça qui rendent compte de ce fonctionnement cognitif.
Alors Victor Vincent, la flatterie, ça peut être aussi un bon outil, non, pour manipuler quelqu'un et parvenir à ses fins.
Absolument.
C'est bien quand même de se faire apprécier par la personne que l'on souhaite manipuler, non ?
Oui, en fait, on peut obtenir des gens quand on leur donne ce qu'ils attendent. Et tout le monde attend la même chose, c'est de la considération, on existe dans le regard de l'autre. Donc à partir du moment on donne de l'importance à quelqu'un, vous lui fournissez quelque chose dont il a besoin. Donc vous imaginez si vous êtes un dealer et que vous êtes le seul à donner, après vous faites ce que vous voulez de la personne. Donc même si la personne peut s'en rendre compte que c'est que de la flatterie, etc. Mais quelque part, ça touche quand même petite partie du cerveau. Il y a un petit peu de dopamine qui sort. C'est comme les réseaux sociaux, quand on scrolle, on se dit « Ah, c'est bien, je suis au centre de quelque chose. » C'est pour ça aussi qu'on se sent exister, on a un endroit, etc. Et là, c'est pareil, la flatterie, ça marche très bien.
Avant d'avancer,
est-ce que je peux rebondir sur la question, ce qui se passe dans la tête ? Je prends juste un exemple utilisé par les publicitaires. La Coupe du Monde vient de commencer, d'ailleurs, par un très beau succès de l'équipe de France, 81, bon, c'est quand même pas rien. Hein. Mais regardez, au moment de la Marseillaise, la caméra zoome sur les joueurs. Mais le plan est relativement large, ce qui fait qu'on voit le logo. Et qu'est-ce qui se passe ? La positivité et les valeurs de la Marseillaise, sans qu'on en ait conscience, se transfèrent sur le logo. Ce qui fait qu'après coup, on voit le logo dans un magasin, on a tendance à acheter le produit alors qu'on ne l'aurait pas fait si on n'avait pas dans notre tête ce qui s'est passé. Hein, là, les professionnels de la publicité tablent sur ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. On n'en a pas conscience.
C'est la manipulation de masse, ça. Hein.
Voilà. Et là, ça relève de la manipulation de masse. En gros, vous avez un transfert de la positivité du contexte sur les objets qui sont placés. Là, la Marseillaise, les valeurs, la liberté, liberté, liberté chérie, se transfèrent ces valeurs sur ce que l'on voit, même si on ne le voit pas consciemment.
C'est pour ça que les sponsors payent si cher.
Et c'est extrêmement fort. Et c'est ainsi que les publicitaires modifient nos goûts et par-delà nos façons de consommer.
Alors avant d'avancer un peu plus sur ce sujet, on a été voir dans la rue ce que les gens pensent de l'art de manipuler. On écoute tout de suite le micro-trottoir de Juliette Lavaux.
Moi j'ai déjà essayé de manipuler en tout cas, c'était il y a quelques années, j'étais en formation et une personne allait me faire passer mon examen de fin d'année. Et du coup, pendant toute l'année, j'ai essayé d'aller un petit peu lui graisser la patte, lui offrir des cafés, aller le voir.
Est-ce que ça a fonctionné finalement ?
Au final, je l'ai eu.
À quoi elle sert cette manipulation ? Pourquoi ça vous arrive de la pratiquer ?
J'essaie toujours de manipuler les autres afin de leur montrer le côté positif de ma personne.
Oui, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de manipuler entre guillemets. C'était plus pour l'appâter, c'était pour mon neveu. Enfin, je lui fais croire certaines choses où je lui dis tu auras un gâteau ou tu auras une petite récompense. Voilà, et ça marche très bien.
Alors oui, ça m'est déjà arrivé de manipuler. Quand une fille me dit qu'elle veut uniquement du sérieux, ça m'arrive de dire oui aussi juste pour aller la voir. Et moi, je cherche pas forcément du sérieux.
Du coup, moi aussi, j'ai une anecdote, c'est qu'on avait un pote, à la fois, il venait en retard quand on avait un rendez-vous. Du coup, on a prévu un plan. C'est qu'on lui a dit qu'on était là une heure à l'avance, alors qu'on n'était pas encore parti de chez nous. Et il est quand même venu en retard.
Oui, je ne sais pas si c'est une petite manipulation, elle est toute petite. J'ai l'habitude de demander à mes enfants et petits-enfants ce qu'ils veulent pour Noël. Je leur demande en novembre. Pour qu'ils me répondent vraiment, je leur dis, ceux qui ne me diront pas ce qu'ils veulent, ils auront une cravate.
Oh, la menace.
À tout âge, on manipule, hein, je crois.
Bon, il y a une technique dont vous parlez, Robert Vincent, et qu'on a tous déjà essayé ou dont on a été victime sans s'en rendre compte. C'est celle du pied dans la porte. Expliquez-nous comment ça marche.
Oui, c'est de très très loin ma préférée parce que cette technique nous permet d'obtenir ce que l'on souhaite obtenir, parfois sans qu'on ait même besoin de le demander.
Racontez-nous.
En formulant ce qu'on appelle une demande implicite. Je voudrais vous donner un exemple. D'une recherche que j'ai réalisée il y a quelques années, qui est connue sous le nom du billet perdu. Alors venez avec moi à Aix-en-Provence, dans le cœur historique d'Aix-en-Provence, et voilà quelqu'un qui perd un billet de banque, 10 euros. Évidemment, celui qui perd le billet de banque, c'est un expérimentateur. Mais celui qui voit le billet tomber, c'est un sujet naïf. Il ne sait pas qu'il est observé. Et on va effectivement observer son comportement. Alors, j'ai eu la tristesse de constater que dans ma ville à moi, que j'aime beaucoup, la probabilité que la personne réagisse comme j'aurais souhaité qu'elle réagisse en disant « Monsieur, monsieur, vous avez perdu un billet » est relativement faible. Il n'y a que 20% des gens qui avertissent le sujet, enfin l'expérimentateur en l'occurrence, de la perte de son billet. Ça, c'est ce qu'on appelle une condition contrôle. Il n'y a pas de manipulation. Alors maintenant, on va manipuler. Manipuler, c'est dans un premier temps, lorsqu'on utilise cette technique du pied dans la porte, obtenir un petit acte, mais si peu coûteux que personne aurait idée de vous le refuser.
Oui.
Là, en l'occurrence, on va lui demander un renseignement. Voilà, quelqu'un d'autre qui arrive, qui prend une ruelle. Et on avait un Anglais qui travaillait dans notre laboratoire, des échanges de chercheurs entre laboratoires, qui jouait le rôle du sujet qui avait perdu son chemin. Et il devait dire « Excusez-moi, pouvez me dire où le cours Mirabeau, s'il vous plaît ?» Il obtient un service de la part de quelqu'un. La personne lui rend le service. Et ensuite, cette personne qui a rendu le service continue son chemin et 200 mètres plus loin, l'expérimentateur perd un billet de banque, c'est un autre expérimentateur. Et elle voit, elle est le témoin de la perte de ce billet. Cette fois, c'est plus 20, mais c'est déjà 40%.
Ouais.
Et je vous dis pourquoi. Parce qu'en rendant le service, en expliquant le cours Mirabeau dans un premier temps, une petite lampe s'allume. Vous me disiez comment ça se passe dans la tête. Cette petite lampe, c'est « toi, tu es serviable
». Ah,
parce
personne.
Qu'elle n'a pas dit « si vous ne m'expliquez pas où le cours Mirabeau, vous avez deux gifles
».
Il n'y a pas de menace de punition. Elle n'a pas dit non plus « si vous m'expliquez où le cours Mirabeau, je vous donne ma montre ». Pas du tout, il n'y a pas de promesse de récompense.
Donc c'est gratuit.
Il n'y a pas d'acte gratuit. Toc, donc,
pas
elle
mal.
En appelle à ce qu'elle est. Donc, je suis serviable. Mais regardez comment on peut faire beaucoup mieux. En augmentant le coût de l'acte préparatoire, on va faire briller davantage cette lampe « je suis serviable ». Avec d'autres sujets, on leur demande « le cours Mirabeau, s'il vous plaît ». Et on fait semblant de ne pas comprendre. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît. La personne répète. Mais en répétant, la vie lui montre qu'elle est vraiment serviable. La lampe, elle brille davantage. Et cette fois, lorsqu'elle va être le témoin de la perte du billet, c'est plus 20, c'est plus 40, mais 55. Mais on peut faire mieux. Il suffit d'augmenter encore le coût de l'acte préparatoire. Regardez, cette fois, je l'amène à se déplacer. 50 mètres. Pour mettre l'Anglais dans la bonne direction. Elle se déplace sur 50 mètres. Elle revient, elle est vraiment serviable. La vie lui a montré qu'elle était vraiment serviable. La lampe, elle brille, elle brille, elle brille. Et puis un peu plus loin, quelqu'un perd un billet de banque. C'est plus 20, c'est plus 40, c'est plus 55, 70.
Oh bah dis donc.
Et si on rajoute,
encore
tu as la
de
chance
lumière.
De tomber sur quelqu'un de serviable comme vous, on arrive à 90%. Vous voyez, ce passage de 20
à
90%, il tient à quoi ? À strictement rien. Pas à la personnalité des gens, pas aux valeurs, mais au fait d'avoir été amené par les circonstances à réaliser un acte préparatoire plus ou moins coûteux.
J'aime bien ce pied dans la porte. Démonstration du pied dans la porte. Victor Vincent, comment vous y prenez-vous lors de vos spectacles de mentalisme pour manipuler ? Je crois que chez vous, chez les mentalistes, il y a notamment l'art de faire diversion. Hein. Ça joue beaucoup sur ça.
Oui, bien sûr. Après, moi, je ne manipule pas les gens qui sont sur scène. Je collabore avec eux pour leur faire un spectacle. Donc
ça, c'est pas déjà nous manipuler que de
dire
ça ?
Peut-être, un peu. Mais les mots sont importants parce que je ne suis pas celui qui va dire « Ah, je suis le grand manipulateur et j'arrive à faire de vous ce que je veux ». Non, pas du tout. Je suis là pour délivrer un spectacle et pour qu'on puisse s'amuser et qu'on vive... En fait, que les spectateurs puissent vivre sur scène des expériences qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs, ni au cinéma, ni au théâtre, ni à la télévision. Donc c'est juste ça. Après, simplement, dans l'idée du pouvoir, il y a des moments, je pense que mon travail, c'est de faire en sorte que les spectateurs aient envie que les choses fonctionnent et de se laisser emporter. Quand il y a deux personnes qui se parlent, il y a toujours cette notion de pouvoir, entre guillemets, c'est vrai. Partout dans les relations sociales, c'est constamment comme ça. Moi, je pense que, moi, personnellement, j'aime bien obéir. J'aime bien donner le pouvoir à l'autre aussi, parce que je ne veux pas prendre toutes les décisions. La liberté, entre guillemets, est-ce qu'on la veut vraiment pour tout et tout le temps ? Moi, il y a des choses que je ne veux pas savoir. Je laisse les choses comme ça et j'aime me laisser porter quand je suis avec des amis ou quand je suis avec d'autres personnes. Et pas pour tout, bien sûr, mais souvent. Et donc là, j'essaie de faire en sorte que les spectateurs se laissent eux aussi porter pour qu'ils puissent être dans un monde où on s'amuse et où on vit une soirée exceptionnelle et bluffante.
Eh bien, merci à tous les deux.
Avec
surtout, vous ne bougez pas.
Un partage social des émotions. Hein.
On va continuer à en parler après une petite page de pub. On revient avec vous dans quelques minutes. On parle de l'art de manipuler aujourd'hui. Parce que vous savez quoi ? C'est à la portée de tous, sans devenir une affreuse personne, bien sûr. Encore faut-il apprendre quelques techniques qu'on va vous détailler. Alors restez bien à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
On est avec vous en direct jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Est-ce que vous êtes de bons manipulateurs et manipulatrices ? C'est notre sujet, un chouïa machiavélique du jour. Non, je plaisante bien sûr, car on apprend comment manipuler, convaincre honnêtement, enfin presque tout le temps. Et donc, nos maîtres en la matière ce matin, ce sont toujours Robert-Vincent Joule, professeur de psychologie sociale, ainsi que le mentaliste Victor Vincent. Victor Vincent, pendant la pause, vous nous parliez de vos enfants qui voulaient des histoires le soir, jamais la même.
Oui.
Et vous êtes parvenu à les manipuler pour ne faire qu'une histoire, racontez-nous.
Les manipuler, non, mais c'est leur rendre service pour qu'ils soient contents tous les deux d'écouter une histoire qui leur convient. Et en fait, ce que je fais, c'est que pour que tous les deux aient le choix, je demande à l'un de choisir 5 ou 6 livres dont il aimerait entendre l'histoire, et parmi ces 5 ou 6 livres, je demande à l'autre de choisir parmi cet échantillon. C'est un peu comme l'élection présidentielle,
vous voyez. Oui. Le deuxième tour.
C'est un peu comme ça, voilà. Donc en fait, on a le choix. C'est comme
moi, je fais ça avec les légumes. Il y a des choux de Bruxelles, des haricots verts ou des carottes.
Voilà.
Il faut choisir un.
Mais il mangera des légumes. On va se coucher à 8 heures. Donc, qu'est-ce que tu préfères ? Tu préfères jouer 10 minutes et aller au lit ou que je te raconte une histoire et aller au lit ? Mais
c'est-à-dire
dans les deux cas, 8 heures,
il y a
le choix, même si l'issue finalement est la même.
D'accord.
C'est-à-dire qu'après, dans les détails, c'est-à-dire qu'on va au même point, mais on choisit la route. Donc. Quelque part,
on arrive à nos fins.
Voilà.
Robert Vincent, on parle des enfants, justement, on va voir ça avec vous. Dans votre livre, vous parlez de la technique de l'étiquetage dans l'art de manipuler, qui serait justement très utile avec les enfants pour se faire obéir sans effort. Comment vous pouvez nous guider ?
Oui, je vous donne un exemple d'étiquetage, une recherche américaine. C'est un prof qui fait un cours sur l'ordre et la propreté, qui termine traditionnellement dans un cas en disant... Vous avez bien compris, je vous ai bien expliqué, les enfants, il ne faut pas jeter de papier par terre. Et puis dans l'autre cas, c'est une autre condition, avec d'autres élèves, le même enseignant, après avoir fait exactement le même cours, termine en disant, écoutez les enfants, j'ai fait ce cours, mais parce que c'est le programme, moi je vous connais, je sais que vous êtes des enfants propres, c'est pas vous qui allez jeter des papiers par terre. Et puis ensuite, réfectoire, et puis les enfants mangent. Et on s'est arrangé ce jour-là pour que le repas se termine par des friandises enveloppées par
des papiers.
Des papiers. Et grandeur et servitude du métier de chercheur, on prend un balai, et puis on fait des tas. Et on constate quoi ? On constate qu'il y a moins de papiers, les différences étant statistiquement significatives, sinon je n'oserais même pas vous en parler, dans la deuxième condition, c'est-à-dire lorsqu'on a des enfants, évidemment, moi je vous connais, je
fais
parce que c'est le programme.
Quand on les a étiquetés enfants propres,
absolument,
c'est bon, ça marche mieux.
Victor Vincent, vous évoquez également la technique du miroir pour rester maître d'une conversation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et comment la mettre en pratique ?
Ah oui, alors c'est une technique qui est très connue, qui fait que, en fait, qui se ressemble, s'assemble. On va essayer de dire ça comme ça. L'idée, c'est de singer, entre guillemets, la personne qui est en face de nous pour qu'elle puisse, dans le langage non-verbal qu'on peut dégager, que la personne puisse se sentir rassurée, puisse se sentir comprise.
Là, par exemple, vous parlez avec vos mains. Là, donc, si je veux vous manipuler un chouïa...
Par exemple, voilà. Je me dis, mais je me sens déjà bien, parce que vous faites les mêmes mouvements que moi. Il y a une sorte de miroir entre nous, et puis voilà, on se ressemble. Et donc, du coup, forcément, on s'entend.
Ouais.
Parce que si vous agissez comme ça avec moi aussi, c'est peut-être pour les mêmes raisons. Et on va peut-être dans la même direction. Donc, je suis sûr qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Et donc, ça marche réellement, ça.
J'ai besoin d'autres conseils, moi, Robert Vincent, pour les enfants, et notamment comment on fait pour les convaincre de mettre le linge sale dans la panière ou comment on fait pour les convaincre autrement que par les techniques de l'étiquetage à faire la vaisselle, par exemple.
Oui, je ne vais pas répondre directement à cette question-là. Je vais répondre de façon plus générale avec deux principes d'action, deux principes pédagogiques qui sont extrêmement importants pour moi. Le premier s'appelle le principe de naturalisation, c'est dans ma nature. Par exemple, votre fils arrive avec un 18 en français. Qu'est-ce qu'il faudrait dire ? Il faudrait dire d'abord, c'est très bien. Ensuite, nous sommes des êtres sociaux faits de chair et de sang. Il faudrait dire, ah, je suis content, ça me fait plaisir. Et ensuite, rajouter la naturalisation. Voilà. Quand je vois une copie comme ça, comme ça, là, voilà, ça c'est toi. Ça te ressemble.
Ça
se sent que c'est toi. Hein. Ah, ça, c'est vraiment
ça, c'est la naturalisation.
Hein. Comme quoi, la bonne communication peut ne tenir qu'un
fil. Ça se sent que c'est toi.
Mais regardez, maintenant, oui, ça se sent que c'est toi.
Non, mais je
de façon
ça.
À favoriser le lien entre la personne et ses actes lorsque ce qu'elle a fait correspond à vos attentes. D'accord. Maintenant, 2 sur 20.
Aïe, aïe, aïe. Ah,
qu'est-ce
ça
qu'il faudrait
se sent
dire
que c'est pas toi.
C'est pas bon.
Non.
Je ne suis pas content.
Ouais.
Et ensuite, parce qu'on se grandit jamais à rabaisser, vous allez cette fois, au contraire, couper le lien entre la production et le producteur.
C'est pas toi.
Mais
jamais
c'est pas toi. Moi, je te connais. Tu n'es pas comme ça. Ça ne te ressemble pas. Et ensuite, toujours un contrat.
Ah.
Qu'est-ce que tu vas faire pour que la prochaine fois,
plus.
Ta copie soit bonne? Tu veux qu'on réfléchisse, exercice que tu pourrais faire ce week-end? Vous voyez, toujours terminer par un contrat.
Ah, c'est génial. Et là, avec ça, je le manipule, il aura une bonne note la fois d'après, vous pensez?
Absolument. Vous augmentez la probabilité, effectivement, puisque là, vous avez coupé le lien entre le comportement que vous ne souhaitez pas obtenir et la personne qui l'a produit. Mais regardez, ce n'est pas parce qu'on connaît ces principes qu'on va forcément bien les utiliser. Regardez, combien de fois vous avez entendu un papa ou une maman dire à son fils ou à sa fille méchant parce qu'il venait frapper sa petite sœur?
Oui.
Ben, vous savez, vous voyez maintenant que c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire.
Mais ça n'est pas
mais
toi.
Mais pas toi. Moi, je te connais, papa, te connais, t'es gentil tout comme tout. Et ensuite, contrat, regarde-moi, tu vas me promettre de ne jamais plus frapper ta sœur.
Je vais le faire tout le temps.
C'est très, très important.
Ça a l'air génial, cette technique.
Et juste,
oui.
Non, juste pour la nature. La naturalisation, il y a quelques années, j'étudiais ce que disaient les parents de leurs enfants. Et j'entendais une maman dire à son fils, « Viens ma petite feignasse, pas vrai que tu es la petite feignasse d'amour ?»
Mais ça c'est quoi ça,
les
c'est
enfants courir, ça sont des éponges dont l'enfant il va prendre ça. Et donc forcément, et rappelez-vous Jean-Yann qui disait c'est formidable d'être traité de feignant parce qu'après on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit.
Allez, merci beaucoup à vous deux pour cet entretien très intéressant, on a appris beaucoup de choses et je rappelle pour approfondir encore plus ce sujet, il y a vos ouvrages respectifs, Robert-Vincent Joule, votre petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens aux éditions Pug et le vôtre Victor Vincent, son titre Les clés de la manipulation ou comment faire, sous-titre très important, ou comment faire de votre voisin de palier votre esclave dévoué, paru chez Larousse. Et je signale, Victor Vincent, que vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec votre spectacle Mental Circus, notamment aux Folies Bergères du 20 au 31 décembre.
Ah, c'était très bien fait, ça se sent que c'est vous, Mélanie. Voilà. Merci à vous deux. Il va être l'heure maintenant de passer à la partie de l'émission dans laquelle nos bienfaiteurs nous apportent leurs conseils. Première bienfaitrice du jour, ce sera Nathalie Le Breton. Elle a repéré quelques livres pour enfants qui peuvent les aider à vaincre la peur du noir. Et puis on va partir aussi un peu en voyage avec Gavin Clément-Terruiz. Direction la Thaïlande. Un peu d'évasion au cœur de ce mois de novembre. Moi, je dis un grand oui, alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Ravie de vous retrouver. On passe à présent au bon conseil de nos bienfaiteurs qui sont déjà autour de la table avec nous. Gavin Clément-Terruiz du Guide du Routard. Bonjour.
Bonjour à toutes. Bonjour.
Alors,
à tous.
Aujourd'hui, bon, pas tout de suite. D'abord, on va commencer par Nathalie, mais juste pour nous donner une petit peu l'eau à la bouche, on va dire. Avec vous, on va partir loin avec les enfants, c'est ça?
Exactement. On va aller dans l'ancien royaume du Siam. On va aller en Thaïlande. On va aller voir les plages. On va aller voir tous ces palmiers, tous ces bouddhas.
On a vraiment envie d'amener les enfants là?
Bah, ouais. C'est
Ils seront super, nos enfants.
D'autant
Thaïlande.
Qu'il y en a un en studio, hein, on l'entendra peut-être
on
tout à l'heure.
On a l'enfant de Gavin. Merci Gavin.
On vous retrouve dans quelques minutes, mais avant cela, c'est Nathalie Le Breton qui va nous régaler avec ses livres pour enfants. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour. Bonjour alors. Raphaël. Bonjour Kevin, les filles.
Aujourd'hui, vous êtes venue avec 3 livres. Hein. Anti-cauchemar, ce qui va nous être bien utile, nous les parents, car malgré tous les rituels que nous mettons en place, il arrive que des cauchemars viennent perturber la nuit nos enfants et donc notre nuit à nous aussi par la même occasion. À 15 ans, il fait encore des cauchemars, le
oui,
vôtre
et il crie « Maman, maman !» Et vous adorez ça.
Oui, si seulement.
Voilà, mais oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut partir du principe quand même que les cauchemars, ce sont plutôt des mauvais rêves. Déjà, on change un petit peu la focale et que très souvent, ça correspond à un stress, à une angoisse de l'enfant qu'il a vécu dans sa journée et que ça va être important d'exorciser ses peurs. Alors, on va exorciser vos peurs ici, en direct, avec un premier livre qui s'appelle Maxi Trouille. Et je pense que c'est à faire avec les plus jeunes. C'est Kimiko qui a sorti ça chez Loulou et compagnie. Alors, bien sûr, les peurs, on en a tous. C'était quoi vos peurs, vous, Mélanie?
Moi, le noir, clairement.
Peur du noir.
Pas le noir.
Et alors, dans les personnages effrayants, il y avait qui, Julia?
Moi, j'avais un porte-manteau en tête de lion qui me faisait peur.
Oh là 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 là. Et vous, ici?
Moi, c'était le fond de la piscine. Tu sais, la trappe, là.
Oh, ça fait
qui aspire.
Ah, oui,
et toi, Raphaël, par exemple, c'est quoi ce qui te fait peur? genre un loup-garou, un requin, Baba Yaga,
le noir
aussi. Alors avec ça, on va exorciser les peurs, on va revenir sur les affreuses sorcières et Maxi Trouille, les sorcières et les piranhas, Maxi Trouille et les squelettes, Julia, Maxi Trouille. Et vous avez compris que on va exorciser en invitant les enfants à crier en ça. Et à un moment donné, mais il y en a ras-le-bol de toutes ces peurs. Et donc, on referme le livre et toutes ces Maxi Trouille, on leur fait quoi ? Des Maxi Chatouilles. Ça, c'est le côté exutoire du livre pour arriver à parler avec les enfants de leurs peurs.
C'est vachement bien, je trouve. Et donc, ça veut dire qu'il est important de revenir sur les cauchemars dans les livres, en fait. Hein,
oui, parce que, en fait, notamment si les enfants en parlent ou si vous voyez qu'ils ont des cernes, justement. Parce que les cauchemars arrivent avec la parole au moment où les enfants arrivent à élaborer des scénarios, par exemple. Et il va falloir faire passer ces images dont on vient de parler, que vous aviez, le trou de la piscine, par exemple, en symbole, justement. Et les livres, ça sert à ça. J'ai un très bon livre pour vous qui s'appelle Camille contre les cauchemars. C'est sorti chez Casterman. C'est un livre d'Émilie Tétry, extrêmement bien fait. Une petite panthère, tout roule pour elle, tout va bien. Elle a trouvé un truc pour exorciser les cauchemars, c'est d'avoir un ami imaginaire qui va chasser les cauchemars pour elle. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, l'imaginaire chasse l'imaginaire et que le petit monstre qui sert à exorciser les cauchemars, lui-même va avoir peur des cauchemars parce que ça devient de plus en plus monstrueux. Comme vous le voyez sur ces images,
il fiche la trouille,
c'est assez atroce. Et l'ami imaginaire lui-même a peur. Et donc cette petite fille, elle va discuter avec son ami imaginaire et elle va comprendre qu'en fait tout ça est dans sa tête et qu'elle peut mettre des mots et qu'elle peut dire à ses cauchemars « Tu n'existes pas, tu n'es pas dans la vraie vie ». D'un seul coup, cette petite Camille reprend sa vie en main, reprend la maîtrise de ses nuits parce que c'est elle qui a parlé et qu'elle est sortie de l'imaginaire en revenant avec des mots réels qui sont « Tu n'es pas dans ma vraie vie, sors de ma vie, tu n'existes pas ». Les illustrations sont magnifiques parce qu'on passe du noir à une lumière fabuleuse, puisque d'un seul coup, sa vie redevient agréable à vivre.
Peut-être
parce
pour les un peu plus grand celui-ci quand
exactement.
Même, hein, je pense.
Ouais. Oui, on progresse. Hein. On commence avec les tout petits.
Ma fille de 5 ans, elle aurait un peu peur, je pense.
Ouais.
Les premières illustrations.
Ouais, justement, est-ce que c'est une bonne idée de montrer des illustrations aussi terrifiantes ?
Mais oui, Mélanie vous a bien glisser sur les... Oui, absolument. Faut pas avoir peur de ça, parce que justement, on rentre dans la symbolique et qu'il faut imaginer que les enfants, quand vous leur faites dessiner ou que vous reparlez avec eux de leur peur, c'est bien plus monstrueux que les images que vous avez vues. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est de trouver les trucs, ce que propose ce livre merveilleux et en même temps horrible dans les illustrations. Ça s'appelle « Tous les cauchemars ont peur des bisous ». C'est sorti chez Utopique, c'est juste magnifique. C'est un livre de Caroline Le Chevalier et Philippine Murakami. C'est simple, vous avez là des cauchemars qui sont tous assez moches. Une famille de cauchemars, parce que vu tous les enfants, il faut être relativement nombreux. Ils vivent dans la terreur et avec grand plaisir avec les loups-garous. Et évidemment, le seul conseil du papa cauchemar, c'est tu refuses le bisou du parent qui vient dans la chambre pour rassurer son enfant. Sauf que lui, ce petit cauchemar, il en a marre d'être un cauchemar. Il rêve évidemment de tenter le bisou. Ce qu'il va faire, il va accepter le bisou de la maman. Et qu'est-ce qui se passe ? Petit cauchemar va devenir un doux rêve. Les illustrations se transforment. Regardez comme il est beau.
Oh,
il était tout noir
mieux,
et il devient comme ça. Alors évidemment, il va se faire disputer par ses affreux parents de cauchemar. Mais en même temps, il ne va pas pouvoir leur résister et il va leur faire des bisous. Et tous ces mauvais cauchemars
toute la famille
vont
devient
se
des beaux
transformer
rêves.
Oh. En jolis rêves. Et évidemment, la puissance des bisous. Donc, allez-y. Il faut les rassurer et mettre des images, mais les pires que vous trouvez dans les livres, pour leur dire que voilà, ça se referme, c'est de l'imaginaire. Ciao, cauchemar.
Et celui-ci, je le conseille vraiment à tous les parents. Je l'ai chez moi. Il marche très, très bien contre les cauchemars. Merci, Nathalie. Pour ces conseils lecture dont on retrouve les références sur europe1.fr et dans vos box de livres pour enfants, notissez au ton. Allez, on garde les enfants sous le coude, je crois, parce qu'ils sont autorisés dans la chronique voyage du jour de Gavin Clémenté-Ruiz du Guide du Routard. Vous allez nous parler d'une destination très plébiscitée, la Thaïlande. Thaïlande, mais avec les enfants. Est-ce que ça marche aussi alors ?
Carrément, carrément. Si vous avez envie de faire découvrir l'Asie à vos enfants, c'est vraiment la destination, j'ai envie de dire, idéale. Pourquoi ? Déjà, c'est très sûr d'un point de vue sanitaire. Faut juste être à jour avec ces vaccins en France, hein, les vaccins classiques. Il n'y a pas de paludisme aussi sur place dans les zones touristiques, donc ça, n'ayez crainte. Le seul hic, on va dire, le petit hic, c'est le décalage horaire et le vol quand même. C'est 11 heures d'avion, si vous êtes sans escale, hein, bien sûr. Mais prenez un vol de nuit, pourquoi pas ? Comme ça, avec les tablettes et avec le bon, c'est pas top, mais bon, c'est le moment. Hein, on en profite, ça passe, ça passe.
Et puis après une grosse sieste, on n'en parle plus.
5-6 heures de décalage horaire, hein, ça dépend de la période, mais bon, vraiment, là aussi, vous faites la sieste.
Mais franchement, le dérangement vaut le coup, parce que les enfants, ils sont bien reçus, non, en Thaïlande ?
Carrément, les Thaïs adorent les enfants. Hein. C'est vraiment, tout est prévu, en fait. Vous n'avez même pas le temps de demander la chaise haute, qu'elle est déjà installée à table pour votre bout de chou. Vous avez aussi plein d'autres choses. Le personnel aussi, aux petits soins, souvent, dans les hôtels, sur les plages, dans les restaurants, ils sont là pour aider vos enfants. Ils adorent vos chères têtes blondes, n'ayez crainte.
Bon, alors qu'est-ce que vous nous conseillez d'aller voir avec les enfants en Thaïlande précisément ?
Eh ben, on va arriver tout simplement dans la capitale, à Bangkok. Et là, déjà, c'est un choc. Hein. C'est une vraie découverte pour les petits, pour les grands aussi, hein, quand on arrive en Thaïlande. On va aller voir les temples bouddhistes. Un des plus connus, c'est le Wat Pra Keo. On a le Wat Po aussi, avec son Bouddha allongé. Oui. Vous savez, celui qui fait 45 mètres de long et 15 mètres de, 45 mètres de long et 15 mètres de haut, c'est ça. Et souvent, on se met en photo devant les pieds. C'est assez rigolo. Les enfants, ils adorent. Il y a plein de monstres et de gardes qui sont en pierre et on s'amuse à singer les postures, on met les bras en l'air,
etc. Plein de super photos.
Ça plaît beaucoup.
Et puis on prend un tuk-tuk.
On prend un tuk-tuk, bien sûr. Et on va aller prendre aussi le métro aérien. Ça, c'est assez spectaculaire. On est dans un film futuriste. Les enfants ont les yeux ronds d'admiration.
Ah, génial. Mais où est-ce qu'on peut voir aussi, vous savez, les Bouddhas sculptés en pierre, là,
alors,
dans la pierre, là.
Alors, ça, c'est, vous prenez un train. Mm-hmm. Ça, c'est super aussi. Le train thaïlandais est super bien à expérimenter. Vous allez à Ayutthaya pour voir ces fameux Bouddhas en pierre avec la tenue orange qui est traditionnelle du bouddhisme. Et c'est là que vous allez pouvoir voir tous ces alignements de Bouddhas. Allez aussi à Sukhothai. C'est une des anciennes capitales du royaume. Et là, vous allez voir le soleil se coucher sur ces temples de pierre. C'est absolument magnifique. Et on peut le faire à vélo. C'est assez rigolo quand il ne fait pas trop chaud. Quand même.
Et est-ce qu'on peut faire des randonnée avec eux, avec les enfants là-bas ?
Ah ouais, là on monte encore un petit peu plus haut en Thaïlande, on va à Chiang Mai, et Chiang Mai c'est sympa parce qu'il y a plein de treks à faire, il y a plein de forêts, on peut aller aussi dans des grottes souterraines dans cette zone, les enfants adorent encore une fois, on peut faire du rafting, il y a plein de courants d'eau qui sont assez sécurisés, il n'y a pas de soucis, et il y a une ville que j'aime bien pour les enfants, un peu oubliée des circuits, ça s'appelle Lop Buri, et pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des singes qui sont en liberté dans la ville, alors ils vous craignent,
ils sont gentils, ça va,
parce ils vous craignent pas trop, mais en même temps il ne faut pas trop les exciter, et comme ça Vous
êtes sûr que les enfants ils aiment bien ?
Bah attends, des singes en liberté dans une ville, c'est assez rare.
C'est hyper surprenant. Et pour manger, comment ça se passe ? Parce que souvent, on le sait, avec les enfants, ça peut être un peu compliqué.
Bah aucun souci. La base de la nourriture, c'est le riz et les enfants, le riz, ça passe.
J'adore. Raphaël qui est là, Raphaël Clément Ruiz qui est avec nous. Raphaël, viens à côté de moi pour répondre dans mon micro. Viens ici. Donc le riz en Thaïlande, il était comment ? Est-ce que ça a été bon la nourriture là-bas ? Vas-y, approche.
Bah oui, c'était assez bon. On prenait souvent boulettes de viande avec...
Du riz.
Riz et
boulettes de viande. Et les singes en liberté, tu confirmes, c'était chouette ?
Il fallait faire attention,
oui.
Mon fils.
Et dites-moi, attendez, parce que c'est bien, on y mange bien, mais il y a des super plages, non, Raphaël ?
Carrément. T'as aimé les plages ?
Oui, c'était...
Alors,
C'était bien, on avait un hôtel là, au bord de la plage.
Un bel hôtel.
Et, ouais. Et souvent, et c'est pas très cher, hein, franchement, pour 50, 60, allez, 100 euros, vous avez une chambre familiale. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Mais on va sur quelle plage alors ?
Alors, je vous conseille d'aller, moi, une des îles que je préfère, c'est Koh Phangan. On est à l'est. Vous allez aller voir une île pas trop grande, pas trop petite non plus. On y va en bateau, on prend des Songteo. C'est quoi ? Ce sont des taxis collectifs très colorés pour aller de ville en ville. C'est assez sympa. On peut faire du snorkeling. C'est quoi le snorkeling ? C'est un masque, un tuba. Et on est juste au bord de l'eau, et là on voit des poissons, je vous jure, mais au ras de l'eau, tout proche, hein, de la plage, vous allez pouvoir vraiment apprécier. Et puis après, il n'y a plus grand chose à faire d'autre que le simple mouvement, c'est de savoir de quel côté on va se mettre sur sa serviette, sur le ventre,
bon,
sur le dos. Sur le dos,
c'est chiant parce que parfois il faut tourner. Puis il faut commander
la glace aussi, il faut lever le bras. Oh, c'est dur.
Bah, merci Gavin Clément-Terruiz, on va réfléchir à tout ça. En attendant, on vous retrouve dimanche dans Balade en France à 11h aux côtés de William Lémergie. Et bien,
bien voilà, j'espère que cette émission vous a fait autant de bien qu'à nous. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. On vous retrouve demain à 11h. Et qu'est-ce qu'il y aura au programme, Mélanie ?
On va s'attaquer à un incontournable, que dis-je, un pilier de la gastronomie française, le pain, baguette, fougasse, complet ou de seigle. Chacun ses préférences en matière de pain. Mais bien qu'on l'adore, eh bien, il nous pose parfois question. Ce pain fait-il grossir ? Quel est le meilleur pour notre santé ? Comment mieux le savourer ? On fera le point demain avec nos invités spécialistes.
Eh bien, effectivement, on verra tout ça demain dans le détail. Maintenant, place à l'info sur Europe 1, car on retrouve Romain Desarbres pour Europe Midi. Alors, quel est le programme, Romain ?
Bonjour à tous. Dans Europe Midi, ben, on va évidemment revenir sur le match d'hier soir. France-Australie, 4-1. Est-ce que les Bleus vous ont rassuré ? Est-ce que vous les voyez gagner, la Coupe du Monde ? Tiens, vous appelez le 39-21. Et on va échanger. On sera également avec Jacques Vendroux, en direct de Doha au Qatar. Voilà le programme d'Europe Midi.
Merci beaucoup, Romain. À tout de suite.
À tout de suite.